Michel Perrault, vous êtes co-directrice avec Georges Duby de l'histoire des femmes en Occident, publiée en français et en italien. Histoire des femmes en Occident, c'est 5 volumes, un travail considérable. Et j'aimerais bien que vous me présentiez cette entreprise, cette aventure qu'a été cette publication.
Alors, cette histoire des femmes en Occident vient d'une initiative italienne. C'est l'éditeur La Terza qui en avait fait la proposition à Georges Duby fin 87. Et Georges Duby s'est tourné vers moi parce qu'il savait que je m'occupais depuis des années de ces questions-là. Et moi, de mon côté, je me suis tournée vers les femmes avec lesquelles je travaille depuis des années. Déjà à cette époque-là, depuis probablement une quinzaine d'années. Et nous avons réfléchi, discuté, hésité beaucoup, parce que c'était quand même un très gros travail, et finalement accepté. Finalement accepté parce que nous nous sommes dit que c'était quand même une belle proposition, que par ailleurs c'était assez amusant pour nous de travailler dans un cadre directement européen. C'était bien de travailler avec un éditeur italien, avec d'ailleurs des problèmes que ça pouvait poser aussi, par exemple pour nos collègues italiennes. Alors, nous nous sommes lancés dans l'aventure, et ce que je voudrais dire, c'est que ça a été constamment un travail collectif. L'équipe de direction était française, sauf une américaine, Nathalie Zemon Davis, qui a accepté de travailler avec Arlette Farge pour le volume sur l'époque moderne. Ce choix venait de raisons pratiques. Comme il fallait qu'on se voit beaucoup et qu'aussi on avait l'habitude de travailler. L'équipe de direction est française pour des raisons pratiques, parce que nous étions amenés à nous voir très souvent. Et donc, on ne pouvait pas multiplier les voyages. Ça coûtait trop cher, c'était vraiment pas possible. Alors, chacune des directrices de volume a fait appel à son réseau. C'est un travail qui a beaucoup fonctionné par réseau. Par exemple, Christiane Clapiche, qui a dirigé le volume Moyen-Âge, connaissait très bien toutes les femmes et les hommes aussi, qui étaient les plus compétents sur ce sujet-là. Au total, 72 personnes ont travaillé dans cette entreprise. Il y a environ 60% de Français et de Françaises, 40% non français, avec un assez gros peloton d'historiens et d'historiennes américaines, parce qu'elles ont quand même fait beaucoup de choses. J'ai plaisir à dire que Anne-Marie Capelli, qui est une historienne suisse, féministe et suisse, a justement rédigé dans le volume 19e de ce qui s'appelle Scène féministe et qui est tout ce qui concerne l'histoire du féminisme, parce que je savais qu'elle avait travaillé sur ces questions. Et voilà. Alors, je voudrais peut-être dire un petit mot des choix que nous avons faits pour ce travail-là. Nous avons choisi la longue durée, de l'Antiquité à nos jours. On n'est pas remonté ni à l'Égypte ni à la préhistoire. On a choisi un petit peu les racines de notre culture. Et en même temps, on avait la volonté de traiter de la longue durée parce qu'il nous semblait qu'on pouvait essayer de saisir les moments forts de changement de l'histoire des femmes, c'est-à-dire, on le dira dans un instant, de rapport entre les hommes et les femmes. On a choisi l'Occident parce que c'est là-dessus qu'il y avait des recherches et qu'on pouvait pas dominer le reste. Si on avait voulu traiter des femmes africaines, c'était quand même une autre série de problèmes. De même, les femmes en Orient, je crois que maintenant, on pourrait faire des choses, mais à cette époque-là, qui est fin 87, il n'y avait pas encore beaucoup de choses. Voilà, alors ça. Et puis, troisièmement, nous n'avons pas voulu faire un dictionnaire, une encyclopédie. Autrement dit, on ne trouve pas tout dans cette histoire des femmes. On trouve des thèmes. On a essayé de choisir pour chaque période les thèmes qui nous paraissaient importants du point de vue du changement, mettons la religion pour le Moyen-Âge, le féminisme, le droit pour le 19e siècle, les guerres, le fascisme, les régimes totalitaires pour le 20e. À chaque fois, on s'est demandé qu'est-ce qui est important dans la période que nous traitons. Et puis enfin, dernier trait, nous avons voulu traiter d'une histoire qui soit très relationnelle. Je veux dire par là, il n'est pas question pour nous de faire une histoire close des femmes, ghetto, mais de toujours se poser la question du rapport entre les hommes et les femmes. Parce qu'en définitive, même si on décrit un lieu de femmes isolées, une pension de jeunes filles, un lavoir ou un couvent, pour donner trois exemples, eh bien, ces lieux de femmes s'inscrivent dans un ensemble plus vaste, qui est un ensemble mixte, qui est un ensemble de rapports masculins-féminins. Si on faisait l'histoire de l'Église, on le verrait bien, naturellement. Ouais.
Est-ce que cette approche, cette dimension de regarder l'histoire des femmes en fonction des rapports sociaux, des rapports entre les hommes et les femmes dans une époque donnée, dans une société donnée, qu'est-ce que ça a ouvert comme perspective, comme quelle nouveauté ça représente par rapport à la manière d'écrire l'histoire, peut-être plus traditionnelle, plus...
Oui, alors, beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais d'abord une qui me paraît très importante, c'est l'idée que les rapports entre les hommes et les femmes, que très souvent les Américains appellent le gender, et qu'il est peut-être un peu plus difficile de traduire par genre en français, ces rapports ne s'enracinent pas dans la nature. Bien sûr, nous naissons hommes et femmes biologiquement différents, mais en définitive, ce n'est pas cela qui conditionne notre manière d'être une femme ou une manière d'être un homme. Cette manière d'être, ces rapports, car tout ça est très relatif, ça s'inscrit dans la culture et dans l'histoire. Et par conséquent, ça change. Par conséquent, ce n'est pas, y a rien d'immobile dans ce domaine-là. Il peut y avoir des représentations des hommes et des femmes, de la féminité ou de la masculinité, qui sont relativement immobiles. Il y a certains traits qu'on retrouverait presque de l'Antiquité à nos jours. Mais ce sont des représentations. Et derrière cela, d'ailleurs, elles-mêmes, elles changent ces représentations, les pratiques réelles, la manière d'être un homme ou une femme, ça change beaucoup. Et c'est pour cela que nous avons choisi ce parti pris. Et prendre par ailleurs ce point de vue, c'est, comment dire, directement lié à l'historicité. Cela veut dire qu'on va prendre une époque donnée, on va essayer de voir à tous les niveaux les discours philosophiques, théologiques, moraux, les pratiques, par exemple dans la cité, au niveau politique, dans le travail, à la maison, dans le niveau privé. On va toujours essayer de voir comment se passent les rapports entre les hommes et les femmes. Et ça permet de déconstruire une réalité historique donnée. Ça permet de toujours poser aussi les problèmes de pouvoir, parce qu'au fond, traiter les rapports entre les hommes et les femmes, c'est traiter à la fois de la culture, mais c'est aussi traiter des rapports de pouvoir. Or, je pense que ces rapports de pouvoir, c'est quelque chose d'essentiel.
Que vous avez retrouvé de l'Antiquité à nos jours.
On a retrouvé de l'Antiquité à nos jours une certaine manière, sans doute, d'être. Par exemple, prenez la politique. Vous apercevez que dans la cité grecque, les femmes sont exclues de la politique. Mais elles ne sont pas les seules. Il y a beaucoup d'autres exclus. Si on prend la démocratie, les femmes sont, au début du moins, exclues aussi de la politique, qui est considérée comme le domaine des hommes par excellence. Alors, est-ce que c'est la même chose, la démocratie moderne, que la démocratie athénienne ? Non, ça n'est pas la même chose. Il n'y a plus d'esclaves dans nos cités et les classes populaires, les hommes des classes populaires accèdent à la citoyenneté. Mais les femmes ont été pendant longtemps exclues. Donc la comparaison est intéressante.
Mais l'histoire des femmes, il y avait avant cette publication, il y avait en tout cas dans la culture française et italienne, il n'y avait pas beaucoup de publication. Donc, vous avez recueilli les fruits de la nouvelle histoire de ces dernières décennies où il y a eu un nouveau travail qui s'est fait, parce que c'est vrai que l'histoire des femmes était très, en tout cas, invisible, oui. Très peu publiée.
Oui. Il y avait des histoires de femmes, il y avait des biographies, il y avait des livres sur les héroïnes, les saintes, ou au contraire, les femmes de l'ombre, les courtisanes, il y a un petit peu toujours ces thèmes-là qui étaient... mais c'est vrai qu'il y a eu Grimal qui a essayé de faire, il y a 30 ans, une histoire mondiale de la femme, mm-hmm. mais qui est surtout une histoire de quelques représentations, la déesse, des choses comme ça. Bon, c'est vrai que c'est nouveau quand même d'avoir voulu faire cette histoire globale sur une longue durée. Je dirais que nous recueillons en effet les fruits de mutations qui se sont opérées depuis, on pourrait dire maintenant 25 ans, hein, depuis les années 70. Je dirais que il y a eu un peu trois origines à cette histoire des femmes, une origine un peu scientifique. Par exemple, les rapports plus grands entre l'anthropologie et l'histoire qui ont ramené l'attention vers la famille, qui était quelque chose qui avait été un petit peu oublié dans l'histoire économique et sociale telle qu'elle avait été traitée, par exemple, dans l'école des annales, qui a beaucoup renouvelé la manière de faire l'histoire. Puis deuxièmement, il y a des raisons sociologiques, plus de femmes à l'université, au niveau tant des enseignantes que des étudiantes, et par conséquent, avec une caisse de résonance et une demande nouvelle. Et ça, c'est très important. Et troisièmement, des raisons, j'allais dire, politiques, c'est le mouvement des femmes.
C'est le mouvement des femmes, c'est le fruit.
Oui, parce que le mouvement des femmes, à partir des années 70, se développe, il y a 10 années en France, par exemple, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, dans le monde occidental. Il a été très fort à ce moment-là, il avait des revendications précises, concrètes, son optique et son choix n'étaient pas d'abord d'écrire l'histoire, mais il a eu des effets sur l'histoire, parce que dans les universités, les enseignantes, les étudiantes, qui étaient très importantes dans tous ces mouvements, elles se sont dit, mais d'où ça vient tout ça? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce qu'il n'y a pas eu déjà par le passé, etc., etc. Et ça a amené une véritable demande, on pourrait dire une demande sociale, en l'occurrence une demande surtout de femmes. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, je l'ai vécu à Paris 7, où j'étais professeur en 74, donc avant j'étais maître de conférence, maître assistante. Et quand je suis devenue professeur, eh ben, j'ai vu arriver des étudiantes qui me demandaient de faire des recherches dans ce domaine-là, et c'est comme ça qu'on a organisé des cours, des séminaires. Et alors maintenant, il y a vraiment un champ de recherche qui s'est beaucoup développé. Et quand la Terza nous a présenté sa demande en 87, il y avait quand même déjà, on pourrait dire, 10 ans ou 12 ans d'une accumulation d'histoires des femmes qui a permis de l'écrire vite, parce que ça a été quand même fait vite.
Assez vite.
Voilà.
Et vous vous êtes occupé particulièrement du volume qui concerne le 19e siècle.
Oui.
C'est vous qui l'avez
avec
dirigé.
Avec Geneviève Fraisse, qui est une philosophe qui a fait de l'histoire et dont j'apprécie énormément la réflexion très aiguë sur les rapports entre les sexes. Et ça a été pour moi un grand plaisir et en même temps un grand intérêt intellectuel de travailler avec elle.
Et puis vous, particulièrement, vous avez écrit dans ce volume, vous avez écrit sur quoi plus précisément ?
Alors j'ai écrit un chapitre qui s'appelle « Sortir ». Et dans lequel j'essaie de montrer que, bien que les rôles féminins au XIXe siècle aient été assez limités dans la sphère privée, et c'est une caractéristique du XIXe que cette extrême rationalisation des rôles masculins-féminins autour du public et du privé, et avec aussi une grande importance donnée à la famille. Ça n'empêche pas que les femmes sortent. Voilà. Alors, pour aller très vite, les femmes de la bourgeoisie, on leur demande de plus en plus de sortir de chez elles, c'est-à-dire d'être charitables et d'être philanthropes, parce qu'il y a le problème social qui se développe, et on leur dit, en quelque sorte, quand je dis « on », l'Église, le protestantisme, très important dans ce domaine, les laïcs aussi, il y a une espèce de « mesdames, sortez de chez vous, occupez-vous des pauvres ». C'était un peu le rôle traditionnel des femmes. Mais ça se fait sur une plus grande échelle et ça se fait souvent de manière plus moderne. Et ces femmes, au fond, par là, elles vont devenir, pas toutes naturellement, il y en a que ça n'intéressait pas, mais un grand nombre d'entre elles, un peu des expertes de la question sociale. Elles vont souvent avoir une plus grande connaissance de la misère que leur mari, et elles vont développer une expertise sociale et souvent avoir affaire avec l'argent, l'argent qu'elles ne géraient pas nécessairement dans le domaine familial. Dans la bourgeoisie, le mari donne une somme d'argent à sa femme, il faut qu'elle se débrouille. Là, elles le géraient dans les œuvres. Elles organisaient des ventes de charité, par exemple, qui pouvaient avoir de très grandes dimensions. Et il y avait ça, il y avait tout ce côté-là. Et il y avait aussi le côté des voyages. Au 19e, le voyage se développe et les femmes aiment voyager. Elles voyagent souvent pour elles-mêmes et puis après, souvent, elles vont voyager par curiosité ou bien pour des œuvres aussi. Et quand elles vont être féministes ou simplement dans quelquefois des associations philanthropiques, féminines, elles vont aller dans des congrès. À partir des années 1870, il y a beaucoup de congrès. Et on voit ces femmes qui s'en vont en voyage, qui prennent le train, quelquefois le bateau, pour aller en Amérique. Elles avaient beaucoup de rapports, certaines d'entre elles, avec les États-Unis. Et au fond, le monde s'ouvre comme ça. Donc il y a une sortie des femmes. Alors dans les classes populaires, les femmes de toute manière étaient moins enfermées à la maison, puisqu'il y avait le travail qui les emmenait dans la sphère publique. Et elles avaient aussi un rapport avec la rue, avec la ville qui était différente. Mais il y a aussi cette sortie des femmes qui est importante. Voilà ce que j'ai voulu montrer.
Et vous, personnellement, maintenant, vous êtes toujours professeur à l'université, à Paris.
Et je suis émérite maintenant.
Émérite. Oui. Et puis, vous avez des projets? Une suite de l'histoire des femmes,
alors,
peut-être
vous ne croyez pas si bien dire. Laterza, qui est vraiment un homme très entreprenant, voudrait que nous fassions quelque chose de moins ambitieux, parce qu'il ne veut pas refaire 5 volumes, c'était quand même très lourd, qui s'appellerait « Femmes du monde » et qui serait écrit par une femme japonaise, indienne, africaine, auxquelles on demanderait de parler des femmes actuellement dans leur pays, dans leur civilisation, dans leur culture, mais avec une perspective historique, c'est-à-dire en essayant d'apprécier, au moins pour les derniers temps, les changements et puis aussi les traits qui peuvent venir d'un plus lointain passé. Ça, on imagine que ça peut être très important. Alors, il n'est pas question que ce soit nous, quand je dis nous, les femmes occidentales, qui écrivions cela. C'est pas à nous de le faire, mais c'est à nous de l'organiser, peut-être. Alors, voilà, il y a ça. Il y a l'idée de faire une suite. C'est tout à fait passionnant parce que ça amène à être en rapport avec maintenant des historiennes d'autres pays. Et ce qu'on observe, c'est que l'histoire des femmes est en train de se développer dans un certain nombre de pays. Par exemple, au Japon, il y a une histoire des femmes au Japon qui est en préparation, qui va probablement comporter plusieurs volumes. Donc nous, ce sera plus modeste, on leur demandera 60 pages, pas plus. Il y a une histoire des femmes en préparation en Chine. Alors elle en est tout à fait à son début. Il y a des travaux nombreux qui ont été faits en Inde, parce qu'en Inde, les femmes indiennes sont plutôt dans une mouvance anglo-saxonne. Elles ont des Women's Studies et elles ont pas mal développé l'histoire des femmes en Inde. Bon, en Afrique, il y a pas mal de choses aussi, surtout dans le monde anglophone. Et donc, il y a matière, si vous voulez, il y a tout à fait matière à faire ça. Et puis moi, personnellement, alors sur un plan beaucoup plus personnel, je travaille à une édition des écrits politiques de George Sand, qui est, une, comme vous le savez, une femme de grande...
Extraordinaire.
Oui.
Parce qu'ils ils n'ont jamais été publiés ?
Ils ont été publiés, mais dans des recueils très, très dispersés. Et au fond, ce n'est pas l'aspect de George Sand auquel on s'est le plus intéressé. Forcément, les littéraires s'intéressent aux romans. Georges Lubin s'est intéressé à la correspondance qu'il a publiée. Il y en a 25 volumes. C'est extraordinaire comme source. Et à l'autobiographie, Histoire de ma vie. Mais l'aspect politique de Sand est tout à fait intéressant. Donc, en réunissant, regroupant ses écrits politiques, je voudrais montrer cette dimension de cette femme.
J'ai une dernière question à vous poser par rapport aux études féministes ou les études femmes dans les universités. Comment vous situez par rapport à ça? Est-ce que vous les appuyez? Est-ce que vous pensez qu'il faut les développer?
Ma réponse est entièrement positive. Oui, bien sûr. Depuis 20 ans, on n'a fait que ça, essayer de développer les recherches sur les femmes dans les universités, avec toujours une difficulté en France, qui est la difficulté institutionnelle. Ce secteur qui est bien développé a quand même du mal à se faire reconnaître, parce qu'il y a une raison, c'est que l'objet femme est pluriel. Et on ne peut pas faire uniquement de l'histoire, faire aussi de la sociologie, de l'histoire de l'art, du droit. Alors c'est difficile à classer. Quand on demande à faire un séminaire sur les femmes, on ne sait jamais trop dans quelle discipline. Or chez nous, en France, la pesanteur de la division disciplinaire dans le domaine académique est un petit peu traditionnelle de ce point de vue-là. Donc c'est un petit peu difficile. Mais enfin, bon, il y a quand même maintenant des postes de recherche sur les femmes. Il va y avoir une nouvelle revue qui va paraître. Qui s'appelle Clio, revue d'histoire des femmes, dont le premier numéro doit sortir au mois d'octobre, peut-être au mois de septembre. Et le premier numéro sera sur la libération des femmes, c'est-à-dire les femmes au moment de la libération, dans les années 45, avec aussi des choses sur les femmes pendant l'occupation et pendant la guerre. C'est Françoise Thébault qui dirige ce volume. Et ensuite, il y aura un numéro sur femmes et religion, qui sera dirigée par Agnès Fink, qui est professeure à l'Université de Toulouse. Alors ça, c'est maintenant la nouvelle génération qui arrive, les femmes plus jeunes qui sont là et qui sont pleines d'ardeur et de capacité et qui, je pense, justement, vont développer beaucoup cette histoire des femmes. Autrement dit, il y a maintenant une nouvelle génération qui est en place, qui a passé des thèses souvent sur les femmes et on est très frappé de voir les parutions qu'il y a maintenant sur les femmes en ce moment. C'est très séduisant, ça fait très plaisir.
Merci beaucoup.